un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Lundi 9 septembre 2024. Jean-Louis au micro de Radio Libre en Périgord pour cette 500 et quelquième chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Alors aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs, je vous propose de revenir sous un aspect particulier sur ce qui se passe à Gaza, en Palestine, dans les territoires occupés et également dans le sud Liban, à partir de deux contributions qui ont été publiées sur Mediapart, dans le club Mediapart, par Alain Marchal. Alors avant d'en venir à ces deux contributions, je voudrais dire deux choses. Premièrement, Merci à toutes nos auditrices, auditeurs qui sont passés au Forum des associations sur le stand de Radio Libre en Périgord et sur le stand, du groupe Fred Zeller. Ça a été l'occasion de rencontres intéressantes, d'échanges, et je crois qu'il faut poursuivre dans ce sens. C'est toujours extrêmement intéressant. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était l'information de la semaine, la nomination par le président de la République du nouveau Premier ministre, M. Michel Barnier, B-A-R-N-I-E-R. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans de prochaines chroniques. Alors j'en viens donc à ces deux contributions concernant la situation au Moyen-Orient. La première contribution d'Alain Marchal se pose le problème des médias, de l'attitude des médias occidentaux. Et il le dit tout net en titre de son article, « Les médias occidentaux doivent être inculpés pour leur rôle dans le génocide à Gaza ». En reprenant docilement la propagande israélienne et en rationalisant ou invisibilisant l'extermination méthodique des Palestiniens, les médias occidentaux sont devenus partie prenante du génocide à Gaza. Craig Mockibert, ancien directeur du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, rappelle qu'il existe des précédents historiques pour les tenir responsables devant la justice. Ex-directeur du bureau de New York du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Craig Mockibert a démissionné de ses fonctions le 28 octobre. Sa lettre de démission, que nous avons traduite ici, était un réquisitoire accablant pour l'ONU et les capitales occidentales, dénonçant leur inaction criminelle face au génocide en cours à Gaza, voire leur complicité active, ainsi que leur abandon de la question palestinienne. Donc voici la traduction. La brutalité de la machine génocidaire israélienne en Palestine, ainsi que la complicité directe des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres gouvernements occidentaux, dont la France, sont deux piliers essentiels des horreurs infligées au peuple palestinien et des attaques contre les défenseurs des droits de l'homme à travers le monde. Cependant, un troisième pilier crucial est le rôle des médias occidentaux complices qui diffusent sciemment la désinformation et la propagande israélienne, justifie les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, déshumanise les Palestiniens et occulte les informations sur le génocide en cours. Du point de vue du droit international des droits de l'homme, ces actions pourraient et devraient faire l'objet de sanctions, et il existe des précédents historiques pour cela. Il y a 76 ans, lorsque les délégués se sont réunis aux Nations Unies nouvellement créées pour rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'importance de la protection de la liberté d'expression était primordiale. Ils ont déclaré que, citation, donc les délégués réunis aux Nations Unies nouvellement créées pour rédiger la Déclaration universelle, ils ont déclaré que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » Fin de citation. Mais après un demi-siècle d'atrocités, dû en grande partie à la déshumanisation de millions de personnes en raison de leur race, appartenance ethnique, religion ou autre statut, les rédacteurs étaient bien conscients que la parole pouvait aussi être utilisée comme une arme puissante pour détruire les droits d'autrui, y compris le droit à la vie. Ainsi, dans le même document, les Nations Unies ont précisé que la liberté d'expression n'accordait pas aux médias ou à quiconque le droit, citation, de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction de l'un quelconque des autres droits et libertés. Fin de citation. Au même moment, dans une autre salle conférence des Nations Unies, des délégués se réunissaient pour élaborer une nouvelle convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Les rédacteurs étaient tout aussi conscients du danger que représentent les discours déshumanisants et incitatifs. La convention finale criminalisait non seulement le génocide, mais aussi l'incitation au génocide et la complicité dans le génocide, des interdictions qui s'appliquent non seulement aux États, mais aussi aux acteurs privés. Les rédacteurs de ces deux instruments se souvenaient de la condamnation par le tribunal de Nuremberg, 2 ans plus tôt, de l'éditeur Julius Treicher pour incitation et persécution pour des motifs politiques et raciaux. Le tribunal avait estimé que le journal de Treicher, Der Stürmer, avait contribué à publier des articles comportant une incitation au meurtre et à l'extermination, même en étant conscient des horreurs perpétrées par l'Allemagne nazie contre les Juifs d'Europe. Voilà. Alors, avant de poursuivre cet article, je signale que cet article est illustré par des unes de différents organes de presse qui montrent justement l'aspect extrêmement partisan de ces organes de presse dans ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Donc, vous pourrez découvrir, en suivant les liens qui vous seront proposés sur le site du groupe Fretzeller, vous pourrez donc retrouver cet article et donc ces illustrations qui passent moyennement par le micro, disons. Alors, voici quelques-unes de la presse anglo-saxonne provenant pour argent comptant de la fable macabre des 40 bébés décapités. Ces faux récits ont été utilisés pour justifier le génocide israélien bien réel à Gaza. 50 ans plus tard, le tribunal pénal international pour le Rwanda a condamné 3 personnalités médiatiques pour leur rôle dans l'incitation au génocide rwandais. 2 d'entre elles travaillaient pour la chaîne de télévision et de radio Milcoin et la 3e pour le journal Kangura. Tous 3 ont été reconnus coupables d'incitation au génocide, entre autres crimes. Lors du prononcé de la sentence, le juge du tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, Navi Pillay, aujourd'hui membre de la commission d'enquête internationale des Nations Unies sur les crimes d'Israël, a réprimandé les coupables en ces termes, citation, « Vous étiez pleinement conscient du pouvoir des mots et vous avez utilisé le moyen de communication ayant la plus grande portée publique pour diffuser la haine et la violence. Sans arme à feu, machette ou autre arme physique, vous avez causé la mort de milliers de civils innocents. Der Stürmer savait ce qu'il faisait. Milcoin savait ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, CNN, Fox, BBC et le New York Times et le Wall Street Journal et en France, Le Monde et consorts qui ne cessent de parler de guerre Israël-Hamas et d'occulter le génocide, savent ce qu'ils font. Cela ne signifie pas que ces médias occidentaux sont, à tous égards, les équivalents modernes des Der Stürmer et des Milcoin. Ce n'est pas le cas. Mais, comme ces exemples historiques, ils ont imprudemment franchi les limites de l'éthique journalistique et, dans certains cas, risquent également de devoir rendre des comptes devant la justice. Face au premier génocide de l'histoire diffusé en direct sur les écrans de Boston au Botswana, il est tout simplement invraisemblable de suggérer que les grands médias occidentaux ignorent les réalités sur le terrain ou ne comprennent pas leur rôle dans l'occultation de ces réalités. Elles ont incontestablement fait le choix conscient de dissimuler le génocide à leur audience, de déshumaniser systématiquement les victimes palestiniennes et d'exempter les Israéliens de toute responsabilité. Après que la Cour mondiale ait jugé que les accusations de génocide étaient plausibles et a ordonné des mesures provisoires, que le procureur de la CPI a demandé des mandats d'arrêt et que les organismes internationaux indépendants de défense des droits de l'homme ont publié des rapports accablants sur la conduite d'Israël, les médias occidentaux au lieu de rendre compte de ces événements, ont supprimé les informations à leur sujet et ont intensifié leur couverture en faveur d'Israël. Il est tout aussi important de noter que le public cible de ces entreprises médiatiques ne se limite pas aux spectateurs passifs. Il comprend également les responsables gouvernementaux et les décideurs politiques occidentaux qui sont directement complices du génocide en apportant un soutien militaire, économique, diplomatique et en matière de renseignement à Israël, ainsi que les électeurs qui permettent ce soutien. Il s'agit aussi d'un nombre important de personnes ayant la double nationalité israélienne qui font la navette pour participer au massacre. Le lien entre l'incitation médiatique et les actions nuisibles est plus direct que ces entreprises médiatiques ne voudraient l'admettre. En effet, si votre seule source d'information est constituée par les grands médias occidentaux, il est possible que vous n'ayez aucune idée qu'Israël est jugé pour génocide par la Cour mondiale ou que les dirigeants israéliens font l'objet de demandes de mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité auprès de la Cour pénale internationale. Il est probable que vous n'ayez jamais entendu les nombreuses déclarations d'intention génocidaire du président, du premier ministre, des ministres et des gouvernements et des commandants militaires israéliens. Il est probable que vous continuiez à croire les histoires de bébés israéliens décapités, alors qu'il a été prouvé depuis longtemps qu'elles étaient fabriquées de toutes pièces, et que vous ne soyez pas informé que de nombreux bébés palestiniens ont réellement été décapités. Il est presque certain que vous ne soyez pas au courant de l'assassinat systématique de civils palestiniens, d'enfants, de nourrissons, de femmes, de personnes âgées, de personnes handicapées et d'autres personnes. Vous ne serez pas au courant des camps de torture, du viol systématique des détenus et des tireurs d'élite israéliens qui ciblent les petits-enfants à Gaza. Vous ne savez peut-être même pas qu'Israël détient aujourd'hui le record mondial d'assassinats de journalistes, de travailleurs humanitaires, de fonctionnaires de l'ONU et de professionnels de santé. Au lieu de cela, les médias occidentaux publient régulièrement et sans esprit critique de la désinformation et de la propagande israélienne manifestement fausse pour justifier les crimes de guerre, déshumaniser les Palestiniens et détourner l'attention du public des atrocités commises quotidiennement dans le cadre de la campagne d'extermination d'Israël. Les articles couvrant le génocide sont censurés, les voix des Palestiniens et des défenseurs des droits de l'homme sont étouffées. Les journalistes sont sommés de ne pas mentionner les territoires occupés, les Palestiniens ou les camps de réfugiés. Les victimes civiles palestiniennes qui ne sont pas complètement effacées sont réduites à des dommages collatéraux ou à des boucliers humains dans le meilleur des cas ou à des terroristes dans le pire des cas. Massacre après massacre, les Palestiniens qui font la une de journaux ne sont pas tués par Israël. Ils meurent, tout simplement. Selon les talons en vigueur auprès des médias occidentaux, il n'y a pas de génocide, seulement une guerre de légitime défense. L'histoire commence le 7 octobre. Le contexte des 76 années de nettoyage ethnique, de persécution, d'emprisonnement de masse, de violations flagrantes des droits de l'homme et d'apartheid n'est jamais évoqué. En somme, les grands médias occidentaux sont devenus partie prenante du mécanisme de génocide en Palestine. S'ils ne sont pas tenus responsables pour leur complicité et appelés à rendre des comptes, ces acteurs influents continueront à abuser de leur pouvoir, piétinant ainsi les droits de l'homme de tous ceux qui se trouvent du mauvais côté de la ligne tracée entre ceux qu'ils choisissent de soutenir et ceux qu'ils décident de dénigrer et de déshumaniser. Bien sûr, les défenseurs des droits des Palestiniens en Occident, qui s'opposent au génocide et à l'apartheid israélien, savent mieux que quiconque l'importance cruciale de préserver le droit à la liberté d'expression. Aucun groupe dans l'histoire moderne n'a été autant réduit au silence par les autorités et les entreprises, ni n'a vu son discours autant criminalisé par les gouvernements occidentaux. Les restrictions à la liberté d'expression ne sont jamais imposées aux plus puissants, mais toujours à ceux qui sont les plus méprisés par le pouvoir. Il est temps de renforcer les protections de la liberté d'expression et non de les affaiblir. Cependant, les garanties de la liberté d'expression ne protègent pas l'incitation aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et au génocide. Ces actes doivent faire l'objet de sanctions pénales. La diffamation et l'incitation peuvent également être poursuivies devant les tribunaux civils. Des actions ont déjà été engagées devant les tribunaux internationaux, comme pour les crimes contre l'humanité et le génocide perpétré par Israël en Palestine, et d'autres suivront certainement. Il est envisageable que, comme pour les tribunaux de Nuremberg et du Rwanda, certains grands médias ou individus soient tenus responsables devant la justice dans les mois et années à venir. Quoi qu'il se passe dans les salles d'audience, ces médias seront certainement tenus responsables devant le tribunal de l'opinion publique pour les défenseurs des droits de l'homme. Et ceux qui, partout dans le monde, exigent des comptes de la part des puissants, ce processus est urgent. En réalité, il a déjà commencé. La montée des critiques publiques contre la flagrante partialité des médias occidentaux durant ce génocide a contraint certains médias à ajuster, fût-ce légèrement, leur couverture. Cela prouve que le changement est possible si les acteurs du changement se mobilisent. La force réside dans la prise de parole, le soutien aux médias indépendants et le boycott. Pour commencer, tous ceux qui se sentent concernés devraient se désabonner de ces médias qui donc couvre le positionnement d'Israël, qu'il soit imprimé ou audiovisuel, et se tourner vers des sources indépendantes et encourager les autres à faire de même. Comme l'a rappelé le juge Pillet dans sa décision sur le Rwanda, citation, « Le pouvoir qu'ont les médias de créer et de détruire les valeurs humaines fondamentales s'accompagne d'une grande responsabilité. Ceux qui contrôlent ces médias doivent rendre compte des conséquences. » En fin de compte, la responsabilité de veiller à cela incombe à chacun d'entre vous. Voilà, c'est la fin de cet article donc publié dans le Club Mediapart et dont l'auteur est Alain Marchal, qui se caractérise en disant « gueux de naissance et de vocation ». Alors, Alain Marchal a également écrit un autre billet dans le Club Mediapart qui aborde une autre facette de ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient. Il écrit « La guerre d'usure du Hamas et du Hezbollah mène Israël au bord du gouffre ». Haaretz propose un point de vue absent des médias. Donc on revient bien sûr là sur cette question des médias, ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas. La guerre génocidaire à Gaza n'a militairement aucun sens et pourrait conduire non pas à la liquidation de la cause palestinienne, mais à la fin d'Israël. L'Occident, plus soucieux de la survie du projet sioniste que de celle de millions de Palestiniens, devrait être sensible à cet appel qui n'exprime aucune compassion pour le martyr de Gaza. La plupart des déclarations grandiloquentes faites par le ministre de la Défense israélienne, Yoav Gallant, tout au long de la guerre à Gaza, se sont révélées sans fondement. Après l'occupation de la ville de Gaza, il a affirmé qu'Israël contrôlait entièrement la ville et ses tunnels et que le Hamas se rendrait sous peu. Après l'occupation de Khan Younes, il a prétendu que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, errait seul dans les tunnels, ayant perdu le contrôle de ses hommes et qu'il serait capturé dans les jours qui viennent. Après ces déclarations, Gallant, ainsi que le chef d'état-major de Tsahal, Ervin Halevi, et le premier ministre Benjamin Netanyahou, ont voulu jeter de la poudre aux yeux de l'opinion publique israélienne. Récemment, Gallant s'est rendu à la réalité, déclarant devant la Commission des affaires étrangères et à la défense de la Knesset que l'idée d'une victoire totale à Gaza, citation, est insensée. Et il semble également comprendre que l'échec des négociations sur les otages avec le Hamas pourrait entraîner une guerre régionale mettant Israël en danger, en grave danger. Cette prise de conscience l'a poussé à demander une discussion au sein du gouvernement ou du cabinet de sécurité avec l'intention d'alerter tous les responsables. Son objectif semble être de partager la responsabilité de la responsabilité avec l'ensemble des ministres du gouvernement et non de la porter seule. Je suppose que le ministre de la Défense, Gallant, comprend déjà que cette guerre n'a plus de raison d'être. Israël s'enlise dans le bourbier gazaoui, perdant de plus en plus de soldats, tués ou blessés, sans espoir d'atteindre l'objectif principal de la guerre, la chute du Hamas. Le pays fonce véritablement vers le précipice. Si la guerre d'usure contre le Hamas et le Hezbollah se poursuit, Israël s'effondrera d'ici un an. Les attaques terroristes s'intensifient en Cisjordanie et à l'intérieur d'Israël. L'armée de réserve se rebelle face aux mobilisations répétées des soldats de combat et l'économie s'effondre. Israël est également devenu un État paria, soumis à des boycotts économiques et à un embargo sur les livraisons d'armes. Nous perdons aussi notre résilience sociale, alors que la haine croissante entre les différents groupes juifs du pays menace de dégénérer, risquant de provoquer une destruction interne. Sinwar et Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, comprennent bien la situation désastreuse d'Israël. Ce qu'Israël aurait pu obtenir plus tôt par un accord sur les otages et un cessez-le-feu est devenu impossible en raison des nouvelles conditions que Netanyahou a introduites dans l'accord proposé. Les négociateurs à Doha affirment qu'ils n'ont plus aucune marge de manœuvre, leurs mains étant liées. Dans ce contexte, la menace de l'Iran et du Hezbollah de frapper Israël en réponse à l'assassinat de deux hauts responsables se concrétise dans la région. Le recours aux assassinats, une décision prise par les trois pyromanes que sont Netanyahou, Galant et Halevi, sans mesurer la portée de leur irresponsabilité, risque d'embraser tout le Moyen-Orient. Sinvar a compris que la guerre d'usure joue en sa faveur, sans parler d'une guerre régionale multifront. C'est pourquoi il préfère aujourd'hui poursuivre les combats plutôt que de négocier un accord, et il durcit ses positions. Si Netanyahou n'avait pas mis des bâtons dans les roues de l'équipe de négociation tout au long de la guerre, Israël aurait déjà pu conclure un accord sur les otages avant que Sinvar ne se radicalise. La récente déclaration de Netanyahou aux familles des otages concernant la nécessité de préserver, citation, des infrastructures sécuritaires à Gaza, un mensonge flagrant, a en fait torpillé l'accord, provoquant une catastrophe non seulement pour les otages et leurs familles, mais pour tout le pays. Toutes les décisions prises par les dirigeants politiques et militaires israéliens mènent le pays sur une pente dangereuse. Un dictateur contrôle le destin du pays, suivi aveuglément par un troupeau de moutons. Netanyahou semble déterminé à entraîner Israël dans une destruction collective, tout cela pour rester au pouvoir. Il a perdu son humanité, ses valeurs morales, ses normes et tout sens de la responsabilité envers la sécurité d'Israël. Seul son remplacement, ainsi que celui de ses acolytes, peut sauver le pays. Israël est entré dans une spirale existentielle et pourrait bientôt atteindre un point de non-retour. Après 2000 ans d'exil, nous avons réussi à établir un pays glorieux au prix de dizaines de milliers de morts et de blessés. Aujourd'hui, ce pays se désintègre entre nos mains à cause de Netanyahou, Galant, Halevi et leurs partisans. Il est encore temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc, fin de ce deuxième article donc, de Alain Marchal, publié sur le Club Mediapart, et que vous pourrez retrouver à partir des sites de la Fédération nationale de la libre pensée et également le site du groupe Fred Zeller, et puis la page Facebook également. Voilà, ce sont des éléments, des contributions à la réflexion nécessaire sur ces questions et qui, à mon avis, ont l'avantage, ces deux articles, d'aborder les questions sous des angles que nous n'avons pas forcément beaucoup développés jusqu'à présent, c'est-à-dire la question de la responsabilité des médias et la question donc de l'avenir d'Israël. Alors, pour ma part, j'ajouterai en commentaire que concernant le premier article, il y a également un indice important que tout journaliste devrait prendre en compte, parce que c'est quand même un signal d'alerte sur ce qui se passe. Israël, les dirigeants d'Israël, Netanyahou et toute sa bande, ne veulent pas de témoins de ce qui se passe à Gaza, de ce qu'ils font à Gaza. C'est pour ça qu'aucun visa n'est accordé aux journalistes étrangers. Les seuls journalistes qui sont présents sur les terrains sont des Gazaouis et les informations sont transmises par les humanitaires. Et concernant les journalistes de Gaza, eh bien, ils payent le tarif le plus fort qui soit, puisque des dizaines et dizaines d'entre eux ont déjà été tués dans les bombardements israéliens. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, concernant l'avenir d'Israël, les gigantesques manifestations auxquelles on a assisté ces tout derniers jours, notamment à Tel Aviv, montrent que la population israélienne est en train de rompre de manière extrêmement massive avec ce premier ministre Benjamin Netanyahou qui conduit effectivement le pays à sa perte. La question qui se pose quand même en toile de fond, et là je reviens sur des sujets que nous avons abordés dans la précédente chronique, c'est quelles sont les conditions qui permettraient à la paix de s'instaurer dans cette région du monde. C'est toujours la seule question à laquelle il faut revenir, que ce soit au Moyen-Orient ou aujourd'hui en Ukraine. Quelles sont les conditions de la paix? Et les conditions de la paix, il y en a une qui est systématique, qu'on le retrouve partout. C'est la garantie sur le respect le plus absolu de l'égalité des droits entre les différentes composantes des populations. Tant qu'il y aura des droits différents, suivant que l'on est israélien ou palestinien, tant qu'il y aura cette situation où des colons peuvent se permettre de venir voler les maisons de Palestiniens dans les territoires occupés, notamment en Cisjordanie, tant que ces colons non seulement ne seront pas punis et arrêtés, mais recevront finalement le soutien effectif des militaires israéliens présents. C'est ce qui se passe actuellement. Tant qu'il y aura donc cette différence de droit, la paix ne peut pas s'installer. La question donc du respect des dispositions à prendre pour garantir le respect effectif de l'égalité des droits entre tous est, à mon avis, la question la plus fondamentale. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, pour terminer cette chronique, je voudrais signaler plusieurs petites informations. Premièrement, la Fédération nationale de la libre pensée tient son comité général. C'est l'instance qui se tient une année sur deux, c'est-à-dire les années où il n'y a pas de congrès de la Fédération nationale de libre pensée. Donc ce comité général se tient samedi prochain, 14 septembre, et le groupe Fretzeler y sera représenté. Et bien évidemment, nous aurons à revenir sur les textes qui seront donc adoptés dans ce comité général lors de prochaines chroniques, peut-être même donc dès lundi prochain. Il y a également une initiative dans laquelle le groupe Fretzeler est invité à introduire une discussion. Il s'agit de la fête des Insoumis qui va se dérouler le samedi 21, donc dans le samedi suivant, à Bourou, et dans lequel le groupe Fretzeler va introduire un débat sur la question de l'arrêt du financement public de l'enseignement privé. C'est un sujet complètement d'actualité, puisque plusieurs associations laïques se retrouvent pour aborder cette question et donc reprendre finalement ce qui a été le mot d'ordre qui a jailli du serment de Vincennes, c'est-à-dire au moment du vote de la loi Debré. Fonds privés à école privée, fonds publics à école publique. C'est ce principe qu'il s'agit aujourd'hui de mettre en place. Et son non-respect coûte cher, puisque le financement de l'école privée coûte chaque année 12 milliards. C'est ce qui a pu être établi par la Fédération nationale de la libre pensée. Donc nous aurons l'occasion d'y revenir dans de prochaines chroniques. Et puis nous avons toute une série de sujets que nous aurons à évoquer dans nos prochaines chroniques. Ce n'est pas les sujets qui manquent. Donc je vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique donc dès lundi prochain en direct sur Radio Libre en Périgord. Et avant de vous quitter, un grand merci à Antoine qui a réalisé la partie technique de cette chronique. À lundi prochain.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fretzeler de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord, et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fretzeler lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fretzeler sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
Elle tient.